Merci, merci la louange. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Donc ce matin, c'est fort, non? Aller après aller, hein, puisqu'on reprend, on continue ce verset, après baptisez-les, après être allé dans les nations, les baptiser. Une fois que tout cela est fait par chacun, par l'Église, ce commandement du Seigneur nous est adressé. Et donc maintenant, c'est enseignez-les. Donc ce matin, je vais parler de l'enseignement. Alors c'est un sujet très vaste, hein. Très très vaste, souvent polémique d'ailleurs. Je suis pas bon, moi. Dans le milieu chrétien, on va d'un côté, on va faire l'extrême. D'un côté, on a des personnes qui vont faire référence à un verset dans 1 Jean qui dit « Seul l'Esprit nous enseignera ». Donc eux, ils sont enseignables que par le Saint-Esprit. Ou à l'inverse, à l'autre opposé, des personnes qui vont vouloir qu'ils ne peuvent rien dire tant qu'ils n'auront pas fait, je sais pas, 10 ou 15 ans de théologie, voire plus. Donc l'enseignement dans ce contexte, c'est toujours important, de ce verset, c'est quoi? C'est la suite logique. Vous avez témoigné, vous avez évangélisé, quelqu'un a accepté le Seigneur, il a été baptisé, selon Loïc. Donc maintenant qu'il a été baptisé, on va amener cette personne, en tout cas, à lui expliquer des choses. On va l'amener à comprendre. Et en général, si vous avez parlé à quelqu'un qui s'est converti, la première personne qui va être un peu le pilier de son enseignement, c'est vous. Tout simplement, parce que c'est vous qui l'avez amené au Seigneur. Il a pas mal de questions, d'où, entre parenthèses, l'importance pour chacun d'avoir un minimum, en tout cas, de connaissances. Hein. Pas devenir peut-être des docteurs de la loi, mais être capable d'enseigner, d'expliquer les fondements de la vie chrétienne. Et en même temps, ça ne veut pas dire on se convertit, on vous explique un peu la base et puis c'est fini. Hein. L'enseignement, c'est barbant, hein, j'ai compris, Jésus est mort pour moi, je l'ai accepté, c'est bon, quoi. Je peux avancer. Et souvent, on démarre notre vie chrétienne un peu comme ça. En tout cas, j'allais dire à mon époque. En tout cas, quand on s'est converti, c'était un peu ça. Et puis vous avez dû remarquer, quand vous convertissez, le Seigneur est gracieux. Il est incroyablement gracieux avec nous. On prie, je ne sais pas moi, on a découvert le Seigneur, c'est une nouvelle vie, alors on prie pour tout, quoi. On prie pour une place de parking. Amen, la place se libère. On prie pour un travail, le lendemain, allô, oui, je cherche quelqu'un, c'est toi qui veux embaucher, c'est personne d'autre, hein, on veut que nous. On passe un examen, on n'a rien fait, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Puis le Seigneur est bon. Des fois. Et on l'a. Mais tout ça, c'est quoi? C'est vivre un peu dans le ressenti. Hein, je sens, je ne sens pas. Je présume. Et tôt ou tard, tranquillement, on va dans le mur. C'est peut-être pas pour tout le monde. C'est avec un délai plus ou moins long d'entêtement, parce qu'on a tous nos hauteurs d'entêtement. Et enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Comprenant petit à petit ce principe-là, on va faire appel au Seigneur, on va faire appel à des frères, et vous savez ce qui va se passer? On va devenir enseignable. Et des fois, avant ça, on ne l'est pas. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de chacun ici, hein, mais pour être honnête, je pense que c'est le cas de beaucoup. Donc, quand le Seigneur nous envoie évangéliser, baptiser, enseigner, parce que c'est fondamental. On ne peut pas juste parler du Seigneur et puis laisser les gens se débrouiller. Il y a une responsabilité dans l'enseignement. Parce que l'enseignement va nous transformer, va nous éduquer, il va nous construire, il va nous expliquer, et on a besoin d'essayer de comprendre que Dieu nous aime. Et ça va nous apporter tout cela. On a besoin de grandir, on a besoin d'avoir des fondamentaux, on a besoin de le connaître tel qu'il est. Toute la parole de Dieu dit ça sans arrêt, en fin de compte. Alors, imaginez, on se convertit, voilà, on est content, on sait qu'on est sauvé, et imaginez votre vie chrétienne jusqu'à la fin de votre vie terrestre, en boucle, vous répétez, je suis sauvé, c'est super, je suis sauvé. Bon, vous allez nous fatiguer, enfin moi en tout cas, Mais surtout, ça ne va rien produire dans votre vie. Hein. Il y a un plan. Hein. Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Il y a une pensée, elle est éternelle. Et cette pensée, il faut qu'on la connaisse. On a besoin de la connaître. Et puis, il y a une autre raison majeure de l'enseignement, au-delà de nous-mêmes, c'est les autres. Comme je vous disais, quand vous avez parlé à quelqu'un, vous êtes une courroie de transmission. C'est la transmission. Hein ? C'est important d'avoir de bonnes bases, pour ne pas dire de belles bêtises à celui qui nous posera des questions. Donc, on a besoin là aussi. Et si depuis 2000 ans, le message se transmet aussi bien, hein, globalement, il se transmet bien, honnêtement. De temps en temps, il y a des erreurs, des hérésies, il y en a. Il y en a eu depuis que l'Église est née, en fin de compte, il y a 2000 ans. Mais globalement, la transmission a eu lieu. Globalement. Hein. Et c'est bien sûr grâce à la connaissance de cette parole, de la pensée du Seigneur, du témoignage, que l'Église va continuer à vivre. Et donc, ça nous rend responsables, parce que l'Église, c'est chacun de nous. On ne peut pas faire fi de l'enseignement dans ce sens-là aussi. On est responsable de le transmettre. Si on voit les débuts de l'Église, par exemple, il y a Jésus enseigne ses disciples, par exemple, et on voit que Jésus va... Il y a l'apôtre Jean, c'est le plus jeune, donc lui, on arrive un peu mieux à le suivre. Ben, Jean, il va avoir un disciple qui s'appelle Polycarpe. C'est un nom comme un autre, hein. Eh bien, ce disciple, il a un disciple qui s'appelle Papias. Ouais. On va dire que Papias, c'est comme le petit-fils dans l'enseignement de Jean. Ben, Jean, il était disciple de Jésus. Quand vous lisez Papias, je veux dire, c'est super proche. Et vous avez des fondamentaux qui existent, qui sont là. Si vous lisez Calvin, par exemple, eh ben, à des moments, vous retrouvez Saint-Augustin. Si vous lisez Bonhoeffer, eh ben, vous allez voir Luther. Dans pas mal de choses. D'abord, il va le citer sans cesse. Et si vous lisez aujourd'hui, parce que c'est un peu Timothy Keller, honnêtement, il y a un peu de Bonhoeffer, il y a un peu de Calvin. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui réinvente tout. C'est une transmission permanente. Et c'est rassurant, d'ailleurs. Ça offre la stabilité. Hein ? La révélation, elle est stable. Il y a des gens dans le monde qui pensent qu'elle n'est pas stable, qui vont critiquer, mais parce qu'ils ne savent pas. Donc, il ne faut pas se laisser perturber par ça. La révélation, elle est stable. Hein. Il n'y a pas un nouvel évangile. L'évangile, il tient la route et il se porte très bien. Alors, ça signifie que chacun de nous, tout au long de notre vie, on a besoin d'être enseigné par d'autres. Puis, il y en a qui ont reçu ce don pour donner cet enseignement. Ne nous privons pas de les écouter. Hein. Inscrivez-vous au collège, par exemple. Venez aux enseignements. On va en faire, je pense, le jeudi. Ouais, je vous fais de la publicité. Mais aussi, personnellement, on a besoin de lire la parole de Dieu. On a besoin de prier, on a besoin de réfléchir dessus. Dieu se révèle dans sa parole, c'est clair. Ce message, il n'est pas nouveau. Et la preuve de l'importance de la parole de Dieu, c'est très intéressant, c'est qu'au début de l'Église, vous savez, quand ils se convertissent par milliers, quand Pierre, Jean prêchent, qu'est-ce qui se passe, si vous vous souvenez, dans Acte 6 ? On le voit, l'église démarre, puis c'est un peu la panique. Hein. Il y a le service aux tables, et puis il n'y a plus rien à manger. En fait, les juifs sur place, en gros, prennent un peu tout, et les juifs d'origine grecque, bon, ils n'ont rien à manger. Quoi. En gros, hein, je fais un cours. Et les apôtres vont organiser une réunion, et qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est intéressant. Il ne convient pas, au verset 2, que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et là, ils vont nommer des diacres qui vont se charger du service aux tables. Et au verset 4, ils vont dire « Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » On ne peut pas faire dire « Non, ce n'est pas très important. » Déjà là, les responsables se mettent au service de la parole. Donc c'est bien la mission des apôtres, enseigner. En Acte 18, verset 26, c'est intéressant aussi, il y a Apollos, qui est quand même super réputé, c'est un nouveau chrétien, et puis il est dit de lui, « Instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquila le prirent avec lui et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » C'est incroyable. Apollos, il est capable de prêcher. Priscille et Aquila sont dans la salle. Hein. Et puis ils se disent, c'est super, mais il y a des trucs qu'il n'a pas bien saisi. On va lui donner. Donc, transmission, permanence. Hein. Et apparemment, en plus, Apollos est brillant. Mais il accepte, il est enseignable. Et on va le retrouver plus tard. Ou l'apôtre Paul à Éphèse, pendant 2 ans, il reste à Éphèse. Tous les soirs, il donne un enseignement. Nous, quand on en fait un par semaine, lui, tous les soirs. Bon, c'est Paul. En même temps, peut-être que s'il était là, il aurait plus de succès, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les soirs, pendant 2 ans, il donne un enseignement. C'est que c'est important. C'est évident. C'est pas, il ne le fait pas juste pour se faire plaisir. C'est que c'est fondamental. C'est fondamental dans notre construction personnelle. Hein. Donc l'enseignement, il va se révéler un peu sur... Moi, j'en ai trouvé 3, mais il y en a certainement d'autres. 3 aspects dans notre vie. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Un enseignement à travers sa parole, à travers les prédications, les études. Un enseignement révélé par le Saint-Esprit, vous savez, même si les 3 se retrouvent. C'est-à-dire, des fois, vous tombez sur un verset, et tac, vous recevez quelque chose et vous savez que ça vient du Seigneur, et vous comprenez. Voilà. Et puis aussi un enseignement pratique, hein, manifester ce qu'on croit. Parce que manifester ce qu'on croit sans jamais le pratiquer, c'est tout l'enjeu de l'enseignement, évidemment. Hein. Donc en comprenant de plus en plus ce que le Seigneur veut, on va le vivre de plus en plus au quotidien. Donc je connais, ce n'est pas des étapes, hein. 1, je connais, 2, l'Esprit révèle, et 3, je mets en pratique, c'est tous les jours. Je connais, l'Esprit révèle, je mets en pratique, c'est sans cesse, il n'y a pas d'ordre. Hein. Mais le premier aspect de l'enseignement, c'est connaître, c'est savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Hein. Dans sa parole, il y a toutes les réponses. Hein. On a l'habitude de l'entendre, mais c'est vrai, il y a vraiment toutes les réponses. Mais en même temps, vous allez, peut-être vous en faites partie, vous allez entendre des frères dire « Ah non, mais moi, l'Ancien Testament, je ne lis pas. Trop de guerre. Moi, je suis contre la guerre. » Ou d'autres vont dire « Moi, je ne comprends pas le salut, pourquoi c'est aussi compliqué ?» Ou d'autres vont dire que la doctrine de la grâce, c'est du laxisme déguisé. Ce que vous voulez. Chacun, on a la nôtre. Hein. Et déjà, entre parenthèses, quand on parle comme ça, on confirme un principe, mais incroyable, que nous enseigne la parole. Rappelez-vous en Genèse, nous sommes devenus comme des dieux. La preuve, pour le salut, peut-être que nous, on n'aurait pas fait comme ça. Peut-être que nous, on aurait fait différemment. Hein. On est plus malin que Dieu, en fait. Voilà. Des fois, c'est ce qu'on manifeste dans nos vies. Hein. Il est normal de connaître les fondamentaux. Les doctrines, c'est un mot qui fait peur. Vous parlez souvent à des personnes et puis ils vont vous dire, oula, la doctrine. La doctrine, c'est le mot penser. Pensez que c'est juste la pensée. Pensez, changez votre mot. Dites, tiens, qu'est-ce que Dieu pense de telle chose ? C'est ça une doctrine. Qu'est-ce que Dieu en dit ? Qu'est-ce que Dieu pense ? Hein ? Quand, par exemple, vous allez étudier le péché, la doctrine du péché, eh bien, vous allez découvrir ce que Dieu pense de ce sujet. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il en dit ? La Bible... C'est la parole de Dieu. C'est bête, mais c'est là où Dieu parle. Simple, mais clair. C'est la parole de Dieu. La connaissance n'est pas innée. La connaissance, on apprend d'un autre et on le transmet à un autre. Et c'est vivant. Par exemple, la doctrine du péché. Par exemple. Et la doctrine du péché va définir, par exemple, énormément de choses dans la manière dont vous allez appréhender les autres. Le salut, le mal, les autres doctrines. Hein ? Alors, c'est quoi le péché ? Alors, souvent, quand on demande à des chrétiens, même des anciens, il y a beaucoup de réponses, évidemment. Mais en général, enfin, souvent, le péché, c'est faire le mal. Ce qui n'est pas fou, hein ? C'est désobéir, c'est de ne pas avoir obéi à la volonté de Dieu. Tout cela, c'est vrai, hein ? Il n'y a pas de problème. Mais ce matin, on va essayer de voir là où émerge une doctrine. Donc, si on revient à Genèse, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Adam... merveilleuse créature. Il vit nu. Hein, vous vous souvenez, il vit nu. Il est tranquille. Hein. Mais Dieu pense que tout va bien, puisqu'il dit que tout est très bien et très bon, sauf le deuxième jour. Mais il va tirer une créature semblable à lui. Hein. il va tirer une aide semblable à lui. Et donc, il va prendre une côte. Est-ce qu'il a pris une côte ? Je ne suis pas spécialiste, je n'y étais pas. Mais là, le Seigneur va créer la plus merveilleuse des créatures, la femme, l'unique. Et puis là, il semble qu'Adam est vraiment content, hein. Vraiment, vraiment content, parce qu'il va dire, l'homme dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Et c'est là qu'il y a Ish et Isha. Hein, ça rajoute. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Peut-être qu'au ciel, en fait, on sera tous nus, hein, je ne sais rien, moi. En tout cas, il semble que ça ne pose aucun problème. Hein. Donc, vous vous souvenez, le Seigneur donne une mission à l'homme. Tu vas cultiver le jardin, tu vas le garder, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu t'en approcheras pas. Je ne vous apprends rien, mais c'est juste pour vous ramener un principe. Puis va arriver le diable, le serpent, il va convaincre Ève, elle va manger du fruit, elle va en donner à Adam. Voilà. Et là, ils vont en manger, et on va le lire, et ça dit, « Leurs yeux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. » Il n'y a rien qui vous choque ?« Leurs yeux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. » Qu'est-ce qui vous choque ? Je ne vais pas interroger Gabriel, sinon il va croire que je lui en veux. Rien vous choque ? Leurs yeux s'ouvrirent. Ils marchaient les yeux fermés ? Hein ? Ils marchaient les yeux fermés ? Non. Hein ? Donc vous voyez, on va voir que là, ça va avoir une importance fondamentale. Parce que quand leurs yeux s'ouvrent, un, ils se voient nus, c'est la première conséquence, et deux, ils ont honte. Là aussi, pourquoi ils ont honte ? Hein ? Est-ce qu'on peut en déduire que parce qu'ils marchaient les yeux fermés, ils ne se voyaient pas, donc ils ne pouvaient pas avoir honte ? Est-ce qu'on peut en déduire que, à la suite du péché, Adam est devenu vraiment pas beau ? Ève encore moins. Et donc, ils ont préféré cacher leur nudité ? Pourquoi pas ? Et puis ensuite, le Seigneur va les chercher. Ils vont se cacher, on va le dire. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Leurs yeux s'ouvrirent. Si vous regardez ce verset, avant le péché, qu'est-ce que ça nous dit ? Avant le péché, ils voyaient comme le Seigneur voyait les choses. Ils voyaient à travers, ils vivaient du regard de Dieu, ils voyaient à la lumière de Dieu, tout simplement. Hein ? Parfait, sans péché. Quand l'homme a désobéi, il a juste commencé à voir les choses différemment. C'est comme là, si le serpent avait dit à Ève, « Tu n'as pas besoin de la lumière de Dieu pour voir les choses. Sans lumière, tu vas voir mieux. » C'est exactement ce qu'il lui dit. Hein. Tu n'as pas besoin. Et aujourd'hui, et chaque jour de notre vie, c'est exactement ce que le diable fait dans notre vie. Chaque jour, il va essayer de nous dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on n'a pas besoin de voir à travers ce que Dieu dit des choses. C'est vraiment le plan du malin. Hein ? Et ce verset, à partir de là, donc, ils n'ont plus le regard de Dieu sur les choses, mais notre drame, comme le drame d'Adam et Ève, c'est qu'ils ne sont pas aveugles. Et il y a un verset dans l'évangile de Jean, vous savez, où Jésus va guérir l'aveugle-né, et les pharisiens vont être contre lui, etc. Et il va leur dire un truc, mais je pense que c'est incroyable. Il va leur dire, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, et votre péché reste. Ça, ça concerne l'humanité. Hein ? Ça veut dire que quand on voit du regard d'un autre, ben on ne voit plus du regard de Dieu. Donc Dieu demande, qui t'a dit que tu étais nu ? C'est hyper concret. Qui te l'a dit ? C'est comme si, là aussi, autrement dit, c'est si tu t'es vu nu, c'est que quelqu'un te l'a dit, puisque ce n'est pas moi. D'accord ? Et qui lui a dit ? C'est Satan. C'est le prince de ce monde. À partir de ça, de ce moment-là, l'homme ne va plus voir à travers ce que le Seigneur voit, on va voir à travers le regard d'un autre. Le pécheur, la pensée du monde, par exemple, elle va, surtout depuis un siècle, on va dire, elle pense que on pense par nous-mêmes. On est intelligent, on est des libres penseurs. On est, voilà, l'homme est libre, l'homme est libre. Parce que, et pourtant, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que nous sommes soit esclaves de Dieu, soit esclaves de Satan. Et on n'est pas libre penseur, on ne décide rien dans ce sens-là. Donc c'est intéressant. Donc le pécheur, il voit comment ? Il voit comme Satan voit le monde. Et si Adam s'est senti nu, au-delà de la réalité, bien sûr, de la nudité, on peut y voir ce qu'il n'a pas aimé. On peut y voir ce qu'il a vu de lui et qu'il n'a pas aimé. On peut voir ce qu'il a vu et qu'il n'a pas aimé de sa femme, de l'autre, de l'être humain. Et là, le péché commençait tranquillement son travail de jugement, de destruction dans son âme. C'est ça, le péché. Et la conséquence, tout à l'heure, Pascal l'a dit, la conséquence du péché de Adam pour l'humanité, c'est quoi ? C'est la honte. C'est la honte. La honte d'être mauvais. La honte d'avoir déçu Dieu. La honte de ne pas être fidèle. C'est ça le péché. Les péchés, c'est ce que je fais. Ça va gérer chez moi la culpabilité. Mais le péché, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, c'est que je suis mauvais. C'est ça le péché dans ma vie. D'accord ? Et depuis ce temps-là, d'ailleurs, l'homme, par toutes sortes de moyens, il va habiller sa honte, de plein de manières. Et comment on habille notre honte ? C'est hyper simple, et le diable, ça fonctionne super bien. On veut être meilleur. On veut être meilleur. On est tous comme cela. On est tous dans ce principe. Et comme chrétien, ben, c'est pareil, on tombe dans le même panneau. On veut être le meilleur. Hein ? On veut être le meilleur, mais par nos propres forces. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort, la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas nous qui décidons. Hein ? Mais le Seigneur, vous savez, il ne nous délivrera pas de la honte. Il ne nous délivrera pas de la honte en nous rendant meilleurs. Vous savez comment il va nous délivrer de la honte ? Ça a été dit aussi. En nous aimant. Il n'y a pas d'autre moyen de délivrer quelqu'un de sa honte. C'est en l'aimant. Ce n'est pas en le condamnant. Ce n'est pas en essayant qu'il devienne meilleur. C'est en l'aimant. Et là, là, il y aura du fruit. Et là, oui, il deviendra meilleur. Mais il n'essayera pas d'être meilleur. Il y a une tension entre ces deux phrases. Il n'y a rien. Pourtant, il y a tout. C'est ça, marcher. Alors, quand un chrétien, par exemple, va mal, on a tous vécu ça, en général, qu'est-ce qui se passe ? On ne le voit plus où, en général ? À l'église, évidemment. Hein ? On ne le voit plus trop aux réunions, on ne le voit plus en communion trop avec des frères. Et si vous allez le voir, et là je vous dis bien, si vous allez le voir en l'encourageant et pas en le condamnant, déjà c'est super, en lui disant ben, « viens, reviens, enfin viens, ça va te faire du bien ». Et en général, quelle est la réponse quand vous allez voir quelqu'un et vraiment de tout cœur, vous lui dites ces paroles, qu'est-ce qui va se passer ? Il va vous dire c'est quand tout ira bien, je viendrai. Quand j'irai mieux, ok, pas de souci. Mais là, non, je ne peux pas. J'ai trop honte. C'est tout. Hein ? Et pourtant, l'Église que le Seigneur a voulu, quand on y réfléchit, c'est ce lieu où je suis délivré de ma honte. Ça a vraiment été dit ce matin. Pas parce que je fais de bien. Je ne suis pas délivré parce que j'ai fait quelque chose de bien. Je suis délivré de ma honte par amour. Par amour qui dépasse tout. Hein. Je viens au culte, je suis mal, un frère m'embrasse, je suis encouragé, il y a une parole pour moi, c'est toujours de l'amour. Donc des fois on ne s'en rend même pas compte. Hein. On ne comprend pas pourquoi on nous aime, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous aime, mais on a toute la vie, plus la vie éternelle pour comprendre. Donc c'est long, hein. Donc, je ne sais même pas si on le comprendra. Alors quand on va comprendre ce principe, comme d'autres doctrines, eh bien, notre manière de marcher va changer. Évidemment qu'elle va changer. En rencontrant le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? On est mort à nous-mêmes. On est né en Jésus-Christ. On s'est dévêtu afin de marcher en nouveauté de vie en Christ. Vous voyez, on retrouve ces mêmes principes. En toute liberté et sans honte. On n'a plus honte. Parce qu'on a revêtu Christ. C'est, symboliquement, c'est excellent, je veux dire. On s'est vu nu, on n'a pas aimé ça, on est de nouveau, on revêt Christ. Et donc, on n'est plus nu. Et on en a surtout, on n'a plus de honte, on est dans la liberté. Parce qu'on se voit à travers Jésus-Christ. On ne voit plus à travers un autre qui t'a dit, mais à travers Christ. Et quand on fonctionne comme cela, vous savez quoi ? Ben, ce qu'on voit de nous, ben, c'est parfait. Ce qu'on voit de nous, on commence à l'aimer. C'est pas de la prétention, ça. C'est pas du tout de la prétention. On sait que Dieu nous aime. Et on trouve ça bien. Hein ? Parce qu'on voit ce qu'il voit de nous. Et il n'a pas honte de nous, tout simplement. Hein ? Alors, la vie chrétienne, quand on comprend ce principe, eh ben, elle va changer du tout au tout. Hein. C'est pas bien faire les choses, la vie chrétienne. C'est pas être généreux, c'est pas être gentil, affable. Hein. Non, le combat de la vie chrétienne, c'est jamais, jamais, jamais perdre le regard de Jésus sur nous. Et nous, savoir ce que lui dit de nous. C'est ça, le vrai combat. Quand on réalise cela, quand on marche comme cela, on va échouer, on se relève. Et là, ce que la parole de Dieu appelle les fruits de l'esprit vont être manifestés dans notre vie. Encore une fois, je ne l'ai pas fait, ça s'est produit. Ça s'est produit parce que le Seigneur m'a renouvelé, et donc je vais devenir peut-être généreux, peut-être gentil, peut-être aimant, peut-être j'aurai de l'empathie, etc. Mais non pas parce que je veux être le meilleur, mais parce que Dieu le fait en moi. Et ça, ça grandit. Ça sert à ça, l'enseignement. Ça sert à ça. Hein ? Voilà. Hein ? Et Satan, lui, va passer son temps, et je pense qu'on le vit tous, à nous dire « Non, mais regarde, tu te trompes. Cache-toi. Tu déçois Dieu. Cache-toi. Tu devrais avoir honte tellement que tu n'es pas bon. » Ça, c'est un travail de sape. Il ne faut jamais se laisser avoir. Il ne faut jamais tomber dans son panneau. Hein ? Lui, ça, c'est son vrai message. Le reste, les choses pas bien ou quoi, je ne dis pas que c'est accessoire, mais ce n'est pas le fondement. Parce que ça, c'est accessoire. Le vrai fondement, c'est sans arrêt nous attaquer là où on a le péché, c'est-à-dire notre honte. Voilà. Tu ne vois rien. Voilà. Ça, c'est le vrai message du diable, si j'ose dire. Hein, voilà. Et toute l'importance de l'enseignement, c'est ça. Et puis ça va nous faire grandir, nous faire comprendre l'atmosphère. Voilà, il y a des choses, on va ni s'emballer, on va prier, ça va nous poser. C'est tellement incroyable l'enseignement dans ce sens-là que venez tous. Voilà. Puis il y a l'enseignement révélé, pareil, ça se complète aussi. Vous savez, vous l'avez tous vécu, des fois dans la parole de Dieu, on lit un verset, puis on ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, paf, ça fait un clic. Là. Et on se dit, ça, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Je vous donne un exemple que j'ai vécu récemment, enfin il y a un mois, quoi. Je lisais 2 Chroniques 20, bon, c'est pas le truc qu'on lit le plus, hein, faut être clair. Et là, au verset 12, le roi Josaphat, je vous l'avais partagé la dernière fois, mais il va dire « Nous ne savons que faire, aussi nos regards se portent vers toi. » Mais moi, ce verset m'a transpercé. Je me suis dit « Mais, quel rigolo je suis, hein ! Combien de fois dans ma vie je ne sais pas quoi faire, et qu'est-ce que j'essaye de trouver des solutions, de me battre, je me fatigue. » Et là, le Seigneur m'a rappelé simplement qu'il est souverain de ma vie, hein, et pas savoir quoi faire, au final, ce n'est pas si grave. Ce n'est vraiment pas si grave. Par contre, tourner mon regard vers lui, c'est ça la clé. Nous ne savons que faire, mais nos regards se portent vers toi. Tous les jours, on a des situations où on ne sait pas quoi faire. Et tous les jours, on essaye de trouver nos solutions. Vous voyez, c'est simple. Hein, et si tous les jours, on avait ce réflexe de dire « Je ne sais pas quoi faire, Seigneur, mais je me porte mon regard vers toi, j'attends de toi », la solution viendrait. Donc, vous voyez, ça, c'est une pensée révélée pour moi. Hein. Pareil, si on va des fois dans une étude ou dans un message, ou hop, on comprend un truc, paf, c'est l'Esprit de Dieu qui le révèle. Ça marche. Et là aussi, ça nous fait du bien. C'est l'Esprit du Seigneur qui révèle. Hein. Et cette révélation, en général, on l'applique d'ailleurs. Quand on comprend un principe dans la parole de Dieu, on l'applique. Ça aussi, vous le remarquerez. Et bien sûr, pour finir, vous comprendrez que tout cela n'a de sens que si on le pratique. Et là aussi, la grâce du Seigneur, parce que la grâce du Seigneur, elle répond à tout. La mise en pratique arrive toujours très vite. Hein, par exemple, vous lisez « Supportez-vous les uns les autres » et le matin, tu te retrouves à côté du seul que tu ne supportes pas. Très bonne formation, Dieu change ton cœur, Dieu change ton regard. Et cette personne, tu vas la supporter. Ça, c'est le fruit de l'enseignement aussi. Hein. Parce que l'enseignement va te rappeler ce verset, et d'un coup, ton regard va changer. Vous voyez, il y a des réponses à toutes nos situations. C'est un raccourci, mais ça marche. Hein. Ou un jour, par exemple, je pensais à ça, j'ai un frère qui m'a dit, moi, je fais de mon mieux. Moi, je suis honnête, je suis sincère. Mais si on me ment, moi, je ne pardonne pas. C'est fini, là. Bon, ben lui, il faut qu'il retourne à l'école de sa parole, tout simplement. Hein. Parce qu'il n'y en a qu'un qui a jamais menti. C'est Jésus-Christ. Par contre, il y en a un qui pardonne tout le temps. C'est Jésus-Christ. Là, on s'invente ce qui n'existe pas. Vous voyez ? Donc, on peut reprendre un frère, là aussi, et ça va être le fruit de l'enseignement. Parce que ce frère, un jour, tôt ou tard, il va lire un verset qu'il a toujours lu, qu'il connaît par cœur. Pardonnez-vous réciproquement. Il va le lire 50 fois, il va garder son idée. La 51e, la 52e, la 60e fois, Dieu va lui parler. Et là, il va dire, non mais c'est pas possible. Comment j'ai pu dire une bêtise comme ça ? Dieu nous transforme. Laissons-le agir. Hein ? C'est plus des opinions. Hein ? C'est pas des principes. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans sa parole. Ça, c'est le plus important. Hein ? C'est notre nouvelle règle. Et il nous donnera tous les principes. Hein ? Et donc, petit à petit, nos yeux s'ouvrent à la réalité de cette nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Donc, ne restons pas aveugles. Ne restons pas aveugles, mais ne pensez pas que c'est inné. Ne pensez pas qu'on lit la Bible en faisant... Tac, en plus, je l'ai sorti à l'envers. Vous voyez, c'est... Non, mais c'est un bon exemple, voilà. Ça ne veut rien dire, hein, sauf si vous entraînez avec un miroir, mais sinon, voilà. Donc, non, la parole de Dieu, ça s'étudie. C'est génial. C'est sérieux, mais ce n'est pas sérieux. C'est juste un moyen de grandir, de le connaître. C'est ça le seul but de cette parole. Hein. On doit savoir ce que Dieu dit. Sinon, la vie chrétienne, ça va devenir ennuyeux. On ne peut pas venir... La vie chrétienne, ce n'est pas juste louer le Seigneur. C'est louer le Seigneur. Ce n'est pas juste prier. C'est prier. C'est recevoir l'enseignement. C'est savoir ce qu'il dit dans sa parole. C'est cette mise en pratique. C'est tout cela, la vie chrétienne. Mais au final, l'enseignement qu'on étudie, qui est révélé dans un verset ou qu'on pratique, ils ont tous un point commun. J'ai réalisé cela. Hein, c'est ça. Tout est là. Si vous lisez jamais la parole de Dieu, je vous garantis un truc. Hein, Dieu ne vous parlera pas. Hein, parce que c'est sa parole. Il parle. Encore une fois, hein, revenons à des choses simples. Hein. La parole de Dieu, tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Et nous, on voudrait fonctionner sans elle. C'est pas sérieux. Donc, lisons la parole de Dieu. S'il y a des enseignements, allons-y. Et petit à petit, ayons cet amour. Pas dans le but de faire grandir nos connaissances, dans le but de les vivre, dans le but d'être transformé, dans le but de le transmettre aux autres. C'est tout cela, l'enseignement. Hein. Et je finirai avec ce verset. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez, on reste dans le fait d'être aveugle. Voilà. La lumière de Dieu sur mon sentier éclaire ma route, tout simplement. Voilà. Soyez bénis. Merci. Et puis je vous invite à vous lever. Puis on va juste finir en priant. Et puis, si la louange veut bien revenir... Amen, Seigneur. Seigneur, merci de nous parler à chacun, Seigneur Jésus. au travers de l'enseignement en tant que tel, Seigneur Jésus. On aime ta parole, Seigneur, et on veut vraiment que chacun ce matin soit touché et renouvelé dans son envie de te connaître à travers sa parole, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni. Amen. Amen.